Voici, j'y suis avec Daniel Mermet. Bip.
François Hollande est un président normal. Cet été, il est allé au JO, il a pris des vacances, normal, et à la rentrée, il ne tient pas ses promesses. C'est normal. Un président anormal, lui, il les appliquerait vraiment les 75%, et surtout aux footballeurs. Il ferait tout pour éliminer Bachar al-Assad. Il dirait « ras-le-bol les banques, allez vous faire voir, on rembourse pas ». Un président anormal mettrait le SMIC à 2000 euros et renationaliserait PSA en disant à la famille Peugeot « tirez-vous en Suisse et bonne route ». Il dirait « stop au nucléaire, ça craint trop, fini l'aéroport de son copain mégalo ». Il mettrait des profs partout et imposerait que les studios à la montagne qui sont vides l'été soient réquisitionnés par les mêmes qui l'hiver habiteraient les studios vides des bords de mer. Il dirait aux gogos « fini les bagnoles, je vous donne des vélos ». Voilà ce que ferait un président anormal. Mais un président normal, eh ben, il fait comme les autres. Normal, il est copain avec les banques, vire les roms, remet des flics au lieu de mettre des profs, il touche pas aux footballeurs, augmente les impôts de ceux qui l'ont élu et flatte les pétroliers en reparlant des gaz de schiste. Ça, c'est normal et ça fait des milliers d'années que ça dure. Au moins, contrairement à Sarko, Hollande, il a eu l'honnêteté de le dire. Il est un président normal. Voilà, c'était un message de Pascal.
Oui, bonjour Daniel. Ce matin, j'entends le recul sur l'affectation des 75% de l'impôt pour les contribuables déclarant plus de 1 million de revenus. Ah ça, alors là, ça m'a fait mal. François, je parle à François Hollande, il ne faut pas que tu recules. Il faut parler des revenus de déclaration de moins de 20 000 euros. Je dis 20 000 euros, loin des 1 million. Hein. Alors c'est contribuable, et c'est, ça concerne aussi les veuves, à qui la demi-part sera supprimée d'ici peu. Vous savez combien vont rembourser ces contribuables les trois derniers mois de 2012? Plus de 50% d'augmentation. Ça, c'est du fait du gel du barème décidé par Fillon. Mais la demi-part augmenterait de plus de 20% leur impôt. Il faut en parler, mais parlons-en de cela. Ça, c'est des contribuables qui déclarent moins de 20 000 euros. Hein, 20 000 euros, qu'est-ce que c'est que 20 000 euros? Il y en a qui en ont encore beaucoup moins. Mais 20 000 euros, quand on les assaille comme ça, plus de 50% à payer, non, il y en a marre. Il y en a marre, il faut en parler. C'était Michel Dugard.
Dimanche, temps ensoleillé. Profitons-en pour aller au parc de Belleville, où se joue la pièce de théâtre « Le tribunal populaire des banques » de Jean-Paul Rama, organisé par Attac à 17h. Autre chose, Daniel. Pouvez-vous nous parler d'Émile Romer, de la gauche radicale néerlandaise qui a toutes les chances d'être élue mercredi prochain? Allez-vous le rencontrer? Bonne fin de semaine. Au revoir.
En 64, j'ai eu 6 ans et je suis entrée à la grande école, l'école Jean Massé. En t'écoutant, Daniel, plein de choses me sont revenues. Les deux pièces minuscules où on vivait à 4, le terrain vague en bas de l'immeuble, l'eau qui courait dans les caniveaux et on jouait avec des bouchons, mon anorak bleu devenu violet à force de lavage, la boutique bariolée du marchand de couleurs, l'odeur d'acétone qui s'échappait de l'usine, et les genoux au mercurochrome, tout incrusté des graviers de la cour de récré. Ouais, ça fait un sacré bail que j'avais pas pris le chemin des écoliers. Merci Daniel.
Ah Daniel, c'est pas bien de remuer les souvenirs. J'allais à Pavillon régulièrement aller de la tour Rendez-vous le long de la voie de chemin de fer. Mais mon chemin de l'école à moi, c'était au Lilas, en partant de la rue de Bagnolet. Je me souviens de deux choses, entre autres. C'était le laitier qui livrait les bidons en alu sur le trottoir devant l'épicerie. À notre époque où tout doit être empaqueté, stérilisé, numérisé, je te dis pas la tête de la commission de Bruxelles. Le deuxième souvenir, c'est le repasseur de ciseaux et de couteaux. Il avait une petite carriole avec une meule actionnée par une pédale, et il passait dans la rue en chantant « Repasseur de ciseaux et de couteaux !» Là aussi, à l'époque du tout jetable, ça fait un peu décalé. Rien que d'en parler, il y a d'autres souvenirs qui remontent. Je pourrais en parler une heure encore. Allez, bon courage et merci pour cette photo à la Douaneau.
Bonjour Daniel, bonjour à tous, c'est Marie-Claire de la Drôme. Eh bien moi, il y a un an, au mois d'août l'année dernière, donc en 2011, j'ai fait mon pèlerinage, comme j'ai appelé. Étant dans la région parisienne, je suis allée à Paris avec mon mari, ma fille et mon petit-fils. Et je suis allée rue Quincampoix, au 99, à mon ancienne adresse. Je n'ai pas pu rentrer, maintenant c'est fermé. J'ai vu le changement, donc je ne vais pas donner de détails. Je suis allée après à mon école maternelle. Nous avons fait des photos, bien sûr, devant tous ces monuments historiques. Devant mon école primaire, mes deux écoles primaires. On a photographié aussi le café Boulevard Sébastopol où mon père passait une petite heure le soir pour refaire le monde avec ses amis devant un petit café noir. Voilà, j'ai fait mon pèlerinage, rue Rambuteau, évidemment, tout le quartier a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ma rue, il y avait des clodos, il y avait une maison de récupération de papier, maintenant il n'y a que des galeries d'art. Où il y avait une laverie, une galerie d'art, la petite épicerie jaune, une galerie d'art, enfin bon. Et j'ai même été devant l'église où j'ai été obligée de passer, parce que ma mère n'aurait pas accepté autre chose, avec mon mari. Nous avons fait une photo, nous deux, avec notre petit-fils et notre fille qui nous a pris en photo. Enfin bon, c'était vraiment très, très, très émouvant. Et donc il y a un an que je l'ai fait. À bientôt.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, des messages très touchants et très beaux et très vaillants et très critiques, comme toujours vous savez faire. Jamais les oreilles loin du front. Aujourd'hui, je vais faire très court parce qu'on a beaucoup de messages, justement. Et puis, on va retrouver un grand classique de la basse, si j'y suis, la photo du père. Quelqu'un avait demandé, est-ce que je pourrais faire un reportage, un sujet sur la relation des femmes avec leur père. Alors ça me semblait bizarre, mais pourquoi pas. Mais comment faire pour qu'une femme, une fille, parle de son père comme ça directement? Alors on avait inventé le truchement. On avait trouvé ce mot de le truchement. Et le truchement, c'était la photo. Au lieu de parler directement du lien avec du rapport avec le père, c'était de dire comment je le représente, comment je le représenterais. Bon, c'est vrai, je suis pas très clair là pour l'instant, mais restez avec nous jusqu'à 16h dans la basse où j'y suis. C'est presque un essai radiophonique particulier. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, message informatif de Toulouse de la part du collectif Le Créa et d'autres collectifs tels que le GPS, Slowly et Emergence et puis plein d'autres. Alors suite à l'expulsion il y a 2 semaines du Créa et de 40 familles mises à la rue, nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir un nouveau lieu qui est situé 22 rue des Mouilles. Voilà, c'est dans le quartier des Demoiselles. Alors, on vient de rentrer ce matin, on attend bien sûr la police, mais surtout un grand soutien de la part de tous les AMG, si c'est possible. Rendez-vous aujourd'hui, toute la nuit, tout le week-end, vous êtes les bienvenus. À toutes, ciao, lâchez rien.
Plus de 90% des députés vont approuver, début octobre, le nouveau traité européen, écrit à quatre mains, Sarkozy-Merkel, si la voie référendaire n'est pas obtenu. En juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que l'application du traité ne nécessitait aucune modification de la Constitution française. Pourtant, ce traité touche bien à la souveraineté nationale. Les budgets nationaux devront être validés par la Commission européenne avant d'être votés. Il y a donc bien un abandon de souveraineté. Régis de Nîmes.
Rebonjour à l'équipe de la Si j'y suis et tous les fidèles de l'émission. Je tiens à vous signaler que le terrain de famille Rome de Saint-Ouen a été expulsé ce matin manu militari sans qu'un avis d'expulsion soit donné. Voilà. Allez, eh ben, les familles sont éparpillées à droite et à gauche, dans le 93 bien sûr. Bon, je vous tiens au courant. Ciao.
Bonjour Daniel, merci pour ces souvenirs d'école. Moi, je voudrais évoquer un souvenir d'école. J'habitais un quartier populaire et en face de l'école, il y avait une maison de maître et il y avait un jardin. Et la maison était occupée par une très vieille dame qui ne le faisait plus soigner. Et ce jardin était bordé d'un mur de briques avec un dos d'âne. Et sur le dos d'âne, c'était enraciné un boulot. Et nous, les enfants, quand nous allions à l'école, nous l'avons vu grandir. Il a poussé sur ce mur alors qu'il n'y avait pas de terre. Et pour moi, il ressemblait un peu à nos familles. Nous n'avions pas beaucoup de terre pour nous enraciner. Et pourtant, nous poussions droit, nous avions la force, nos familles avaient le courage et il y avait la beauté. Il y avait quelque chose de vulnérable, de tendre, parce que les feuilles d'un bouleau, que ce soit au printemps ou à l'automne, elles ont ce miroitement. C'est comme des pierres précieuses. Alors voilà, moi c'est mon souvenir d'école. Un arbre qui s'enracine là où il y a de terre. Vous avez parlé des gens de peu, Daniel. Nous sommes tous les gens de peu d'argent, mais nous sommes les gens de beaucoup de vie. Merci, merci pour ces souvenirs. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Christelle Loigereau. Là-bas, si j'y suis, papa et fifille sont-ils sur la photo?
Flight number 2, arriving from...
La photo d'un homme, d'un petit homme triste.
Il serait simple, plutôt grand, sympathique.
Il serait où?
Sur un bateau.
Pourquoi?
J'adore la mer.
Vous vous mettez sur la photo?
Non. Je préfère voir mon père... à l'extérieur. Je ne veux pas avoir de rapport sur la photo avec lui. Parce que je préfère... Ça gâcherait peut-être la photo, je sais pas. On se confie rien. Enfin, ce n'est pas vraiment le père que j'aurais voulu avoir.
Sur cette photo, qui aurait aussi?
Ma maman.
Et qu'est-ce qu'elle fait ta maman alors?
Elle fait un sourire.
Et qui c'est que tu mets encore sur cette photo?
Pas Maëlle, ma sœur.
Et qu'est-ce qu'elle fait Maëlle?
Elle est en train de regarder un livre ou dire quelque chose à maman.
Et toi, tu t'y mets sur cette photo?
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais?
Je suis en train de regarder les nuages pour savoir si le Père Noël se coupe la barbe.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, c'est pour voir s'il arrive bientôt pour se préparer à se faire beau.
Et cette photo, une fois qu'elle serait faite, tu la mets où?
Je la mettrai à côté de toutes les photos que j'ai mises dans la cuisine en bas.
Un père tel que sa fille le voit. L'image... d'un père vu par sa fille, l'image qu'elle s'en fait. Comment il serait sur la photo, avec qui, où, quand. Une photo, mais alors l'envers de l'objectif. Une représentation idéale ou banale ou embellie, où il est terrible, où il est absent et là terriblement. La photo où il n'est pas comme une douleur fantôme. Mon père... ce héros, mon père, ce zéro aujourd'hui, de père à fille, ou plutôt de fille à père. Aujourd'hui, une image imaginaire comme la radio permet de le faire. Aujourd'hui, 13 femmes parlent de leur père, de l'image qu'elles s'en font. Avec Christelle Loigereau, on a demandé à des femmes, des filles, de 5 ans à 95 ans, de décrire la photo qui représenterait le mieux leur père. Une façon d'évoquer ce lien secret, presque sans voix, presque sans mots. Cette invisible chaîne, boulet secret, carcans charmants dont nous sommes faits, dont elles sont faites, faites foraines, faites de chair, de sang et de tout ça, ce ça dont elles font les enfants. Père, fille, irrépressible, irremplaçable, incompréhensible lien avec au fond, au fin fond, dans l'angle aveugle, l'inceste de citron. Oui, le tabou de l'inceste, fondement de toute l'histoire, fondement de toute civilisation. Car l'inceste, c'est le retour au même, le repli, la mort, alors que la vie est ouverture et aventure. Pour parler du lien père-fille, on va chercher le psy, le biologiste, l'anthropologue, l'homme de loi, le spécialiste. Mais le spécialiste ne nous apportera guère plus de lumière que le gynécologue ne nous éclaire sur l'obscur objet du désir. Alors, aujourd'hui, l'image, les silences, les mots des femmes qui disent autre chose, des images qui montrent autre chose à la façon des paravents qui dissimulent d'autres paravents. Entre le père et la fille, l'enfant, un autre soi-même, l'enfant que les adultes fabriquent avec leur regret, comme disait Sartre, en perspective de l'impossible étoile où il serait écrit qu'être aimé, c'est être aimé parce qu'on existe, tout simplement. Aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, my heart belongs to daddy. Papa et fille sont-ils sur la photo?
Papa.
Il y a une photo qui me vient à l'esprit. Il serait souriant, l'œil vif et chaleureux.
Il serait où?
Il serait au coin de sa cheminée.
Qui est-ce qu'il y a à côté de lui, sur cette photo?
Il n'y aurait personne. Il n'y aurait personne d'autre que lui. Alors il serait dans son jardin, finalement. Il y aurait donc la nature, quoi.
Et pourquoi il n'y aurait personne? Même pas vous?
Avec moi. Oui, avec moi ou avec mes enfants, ça serait joli aussi. Mais c'est plus un personnage un peu solitaire, donc je l'imagine aussi volontiers. Il est toujours retranché un peu du monde, même si on est coprésent à l'intérieur de lui, mais pas forcément c'est pas forcément visible dans les gestes ou dans les apparences, quoi. Si je suis sur la photo, c'est quelqu'un d'autre qui la prend, donc. Qui est-ce qui prendrait cette photo si j'étais dessus? Ça pourrait être une de mes sœurs, disons, admettons. Dans ce cas-là, je pourrais être avec lui sur une photo aussi, oui. On serait tous les deux comme des compagnons de travail, quoi.
Jusqu'à présent, vous étiez une fille, la fille de votre papa, et d'un seul coup, vous êtes mère.
Oui.
Ça fait un peu bizarre, ça, non?
Disons que mon cas est un peu particulier. Donc il a rejeté le. Enfin, il n'était pas d'accord pour que j'aie mon premier enfant, parce que il n'a pas accepté le père, il n'a pas accepté le choix que j'ai fait. Il a eu peur pour moi, que ce soit un mauvais choix. Enfin, il en était même sûr. Donc il s'est fâché, en fait. Il y a des choses dont on ne parle pas. Il ne parle pas de son gendre, enfin de mon ami, puisqu'on n'est pas mariés.
Mais vous l'aimez, ce père?
Oui, bien sûr.
Très fort, hein?
Oui.
Vous lui avez dit?
Non.
Ça ne se dit pas?
Non, chez nous, ça ne se dit pas. Je leur ai dit par écrit. Enfin, je lui ai dit par écrit. Et je lui ai pas dit comme ça, quoi. Je lui ai pas dit, tu sais, papa, je t'aime et ça compte et tout ça, quoi. Je lui ai jamais dit.
C'est fastoche au début, l'image idyllique du père et de la fille au bord de la mer. Mais la fille est petite, le père est jeune et beau encore. C'est le temps du héros. Et puis il y a les âges de la vie, et puis les changements et les transformations. Et chaque histoire, évidemment, est absolument unique. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on est comme des ours dans un magasin de porcelaine, et même comme des ours avec un bandeau sur les yeux, puisqu'on va vers les caves, vers les greniers, vers ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes, ou si peu de nous-mêmes, et que nous ne savons si peu dire de nous-mêmes. Sauf peut-être qu'être en vie, c'est avoir envie que quelqu'un ait envie de vous. Et pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les petites filles, c'est peut-être bien le regard du père qui permet de se construire et d'exister. Mais déjà, ce que je dis là veut être savant et gonflé de lecture, de savoir, et n'a rien à voir au fond avec cette photo, voire une photo imaginaire que des femmes ont bien voulu imaginer devant nous. On leur a posé la question avec Christelle, quelle serait la photo, peut-être pas la plus parfaite, mais la photo de votre père, celle que vous imaginez. Et voilà les réponses.
La photo d'un petit homme triste. Triste parce que c'était un exilé. Mon père était russe. C'était un russe blanc et triste.
Qui est-ce qu'il y a sur cette photo ?
Lui et moi. Lui et moi, j'étais sa seule fille. J'étais son seul enfant, donc tous les deux, la main dans la main, on se promène. Et puis il me fait des confidences sur son pays. Et j'écoute, mais j'écoute légèrement parce que je suis trop jeune et je ne m'intéresse pas vraiment à lui. Et c'est maintenant que je suis âgée que je pense à lui avec regret parce que je n'ai pas su tout lui faire dire, tout écouter et que j'ai dû manquer des choses. Voilà.
Ah, cette photo, vous la mettez où ?
Oh, dans un livre. Pas près de moi parce que j'aurais mal au cœur en la regardant. J'aime mieux la mettre dans un livre. Et comme je lis beaucoup, je le retrouverai.
On ne guérit jamais de son enfance. Je ne sais plus qui a dit ça. On ne guérit jamais de son enfance. On se balade avec ça. On se balade finalement avec une quantité formidable de malheurs et avec la seule question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, avec toutes ces tares, ces névroses, ce côté absolument loupé, catastrophique que sont nos existences, qu'est-ce qu'on fait avec ? La réponse, elle appartient à chacun de tâcher de la bricoler. En matière de relations père et fille, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mère et fils, on verra ça une autre fois. Pour l'instant, c'est père et fille. Et avec présent à l'esprit l'affirmation fameuse d'un certain Freud, Sigmund, qui disait aux parents, s'adressant aux parents, « Quoi que vous fassiez, vous ferez mal. » Héros zéro, le père de Nora.
Il serait simple, plutôt grand, sympathique.
Il serait où ?
Sur un bateau.
Pourquoi ?
J'adore la mer.
Vous vous mettez sur la photo ?
Non. Je préfère voir mon père à l'extérieur. Je ne veux pas avoir de rapport sur la photo avec lui. Parce que je préfère... Ça gâcherait peut-être la photo, je ne sais pas.
Et qui c'est qu'il y aurait d'autre sur cette photo ?
Peut-être ma mère.
Ah, et qu'est-ce qu'elle ferait alors, votre mère ?
Elle lui tiendrait la main. Disons que... dans la réalité, je m'entends pas très bien avec mon père, donc c'est pour ça que je me vois pas trop dans la photo. Mais disons qu'il a des rapports très serrés avec l'argent, donc il pense qu'il y a l'argent. On se confie rien. Enfin, ce n'est pas vraiment le père que j'aurais voulu avoir.
Et vous auriez aimé avoir un père comment, alors ?
Qui est plus affectueux.
Comme c'est une photo imaginaire, à la limite, on pourrait penser que tout va bien avec ton papa et...
Oui, voilà.
Alors, comment toi, si tu t'y mets, tu te représenterais ?
Je l'embrasserais. Il me serrerait dans ses bras et puis voilà.
Ce qu'il fait jamais, quoi.
Oui, voilà. Non, de temps en temps, il est... Disons qu'il change quand même de caractère. Il lui arrive de m'embrasser, mais très très rarement. Quoi. Du genre, quand on s'est vachement disputé, on s'est vachement engueulé, puis après il vient me voir, tout gentil, tu veux un billet de 100 Ça lui arrive quand même.
Encore de l'argent, là. Oui, voilà. En fait, il passe sa tendresse par l'argent.
Oui, voilà.
Et toi, c'est pas ce que tu veux?
Non, pas du tout.
Alors, tu veux quoi?
Ben, déjà, je voudrais qu'il oublie carrément l'argent. De plus qu'il en a quand même assez, je veux dire, il est pas... Enfin, je veux dire, il est pas dans la misère. Et qu'il rende plus heureuse ma mère, parce qu'elle est triste quand même, avec lui.
Et cette photo imaginaire, tu la mettrais où?
Je la mettrais dans un joli cadre, et puis je la garderai tout le temps sur moi. Et je la montrerai à tout le monde.
Cinq ans.
Alors voilà, on va dire que j'ai un pouvoir magique, d'accord, qui va te permettre de réaliser la photo de ton papa. Une photo que tu peux créer toi-même, d'accord?
D'accord.
Alors qu'est-ce qui ferait ton papa sur cette photo?
Bah, il ferait la grimace.
Il ferait la grimace? Ah bon?
Oui.
Parce qu'il fait souvent la grimace?
Pas souvent, souvent, mais... Des fois, pour faire rire Maël et moi, il fait des sortes de grimaces.
Il ferait quoi avec ses mains?
Avec ses mains, il ferait un papillon. Puis avec ses mains, il ferait aussi des trucs comme ça ou des carrés avec ses doigts ou des logements. Comme ça.
Et derrière lui, qu'est-ce qu'il y a?
Il y aurait quelque chose à lui.
Et c'est quoi quelque chose à lui?
Ce serait par exemple sa chambre, quelque chose comme ça.
Et sur cette photo, qui aurait aussi?
Ma maman.
Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait ta maman alors?
Elle fait un sourire.
Et qui c'est que tu mets encore sur cette photo?
Pas Maëlle, ma sœur.
Et qu'est-ce qu'elle fait Maëlle?
Elle est en train de regarder un livre ou dire quelque chose à maman.
Et toi, tu t'y mets sur cette photo?
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais?
Je suis en train de regarder les nuages pour savoir si le Père Noël se coupe la barbe.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire pour voir s'il arrive bientôt pour se préparer à se faire beau.
Et cette photo, une fois qu'elle serait faite, tu la mets où?
Je la mettrai à côté de toutes les photos que j'ai mises dans la cuisine en bas. Nami, nami, ya sagiri, ta terja el hasiri. Nami, nami, ya sagiri, ta terja el hasiri. Nami, ya ahla mama, mama bitidailik. نامي 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 يا صغيري تا ترجع الحصيري هي 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 نامي نامي يا صغيري تا ترجع الحصيري هي 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 هي.
Rien du tout. Aucune photo, rien du tout, parce que d'ailleurs j'en ai pas, et je me rappelle plus du tout, j'étais gamine, j'avais 7 ans quand mon père nous a abandonnés, alors vous savez, les photos, et il ne s'est jamais occupé de nous, alors vous savez, les photos, j'en veux pas. Hein.
Quand même, il vous a manqué votre père?
Mon père m'a pas manqué du tout.
À 7 ans, ça manque un papa?
Pas pour moi. Moi c'était ma mère, c'était tout, j'avais pas besoin de mon père. Hein. Non, non. Il nous a laissé que de mauvais souvenirs, alors j'ai pas de photo de mon père, papa, sûrement pas. Hein.
Papa, papa, papa,
papa, papa.
Une douleur fantôme, ça s'appelle ce phénomène qui veut que lorsque vous avez perdu un bras, par exemple, eh bien vous avez mal à la main, au bout de ce bras absent. L'absence du père, la disparition du père, c'est une douleur. Plus il est absent, plus il est présent, plus il est omniprésent. Le lien entre un père et une fille aujourd'hui à travers des images, des photos que ces filles, ces femmes pourraient faire de leur père. Le lien entre le père et la fille est une très vieille histoire, aussi vieille évidemment que nous-mêmes. Peau d'âne, où le vieux roi est amoureux de sa fille et qu'elle devra le fuir pour trouver sa liberté et en finir. Ou bien les filles de Lot, après avoir fui Sodome et craignant de ne plus jamais rencontrer d'homme, alors les filles de Lot vont endormir leur père, saouler leur père et abuser de lui. Dans quelle mesure sera-t-il consentant, ça, seuls les grands spécialistes pourront nous le dire, mais elles abuseront de lui. On voit les limites extraordinaires de ce mythe fondamental qui est évidemment celui de l'inceste et qui est là, caché derrière cette relation quotidienne. À travers les mots des femmes qui ont bien voulu parler à Christelle, il y a forcément un, à un moment ou à un autre, une scène, une description, une relation qui vous touche, vous, père, vous, fille, c'est-à-dire nous tous.
Ben, moi, j'avais une photo qui était réelle, en fait, où il avait 25 ans. Et moi, je suis restée sur cette image de 25 ans, où il est donc au FLN, il est soldat, quoi. Et j'ai cette image de mon père, donc un militaire, un héros national.
Tu te mettrais sur la photo ?
Non. À la rigueur, si je devais mettre quelqu'un, ce serait Boumediene, le président de la République algérienne de l'époque, que j'avais rencontré, que je trouvais qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon père, voilà. Mais pas moi, non.
Et ton père, c'est toujours un héros maintenant ?
Non, j'ai 33 ans maintenant. Cette image, elle a évolué autrement. Oui, vers quelqu'un de normal, un père. Un père sans idéalisation, voilà. Moi, j'étais fière que mon père fasse partie de ces gens qui ont libéré l'Algérie. Mais bon, aujourd'hui, vivant en France, c'est plus le même contexte. Il n'y a plus du tout cette idéalisation. Il y a plutôt une incompréhension. Pourquoi avoir combattu, je dirais, la France pour se libérer. Et 2 ans après, à peine, la libération, de venir s'installer en France, tu vois, c'est pour moi, c'est vraiment un paradoxe et il ne l'a jamais expliqué. De toute façon, pour lui, ce n'est pas explicable. Mm-hmm. Pas du tout explicable. Oui, Aurélien parle. Et j'ai construit une autre image, en tout cas plus réelle, quand j'ai rencontré mon père à 10 ans. En fait, la rencontre s'est faite à 10 ans ici, en France. Puis là, tout à coup, bon, bah, c'était pas vraiment le père idéalisé, c'était un père tout court, un père. Un père du quotidien, un père qui est là, qui se lève le matin, qui va travailler. Il était manœuvre, il se lève à 5h du mat. C'était plutôt une triste réalité. Ce n'était plus un héros, c'était un être normal qui devait travailler pour manger. Et il faisait un travail ingrat. Donc, au niveau d'idéalisation, la fille de 10 ans prenait un choc, quoi. C'était la redécouverte d'un autre père qui n'était pas du tout le mien. J'ai du mal à l'accepter, mais qui s'est arrangé à 20 ans. Hein. De 10 à 20, j'étais vraiment à la reconstruction d'un nouveau père.
Ça t'a fait mal ?
Je crois que j'étais très méchante. Ça m'a pas fait mal. C'est ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai culpabilisé d'avoir pas accepté mon père tel qu'il était, illettré, manœuvre, et qu'il était rien d'autre qu'un pauvre ouvrier. Un pauvre immigré ouvrier, en fait. C'était ça. Non, c'était moi qui étais méchante, j'avais honte de lui. Je voulais pas qu'il m'accompagne à l'école, j'avais pas envie qu'il le. Des trucs pas sympas. Non, jusqu'en terminale, il voulait m'emmener à l'école, ce qui était très fier que j'aille à l'école. Puis bon, moi, j'avais pas envie. Moi, j'étais pas fière de lui. Lui, il l'était, mais pas moi, quoi. Mais bon, mais aujourd'hui, ça va mieux, quand même. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Il y a eu 20 et 33 ans. Donc voilà, 33 ans, je pense qu'il y a une acceptation du père et puis de soi-même, du coup, parce que c'est aussi ça. C'était le rejet de sa propre vie. Hein. C'est pas que. Parce que mon père, c'est aussi mon histoire, quoi. Voilà.
Tu l'aimes ?
Oh, bien sûr. While tearing up a game of golf. I may make a play for the caddy, but if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy.
If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats me so well.
My heart belongs to Daddy. Mon cœur appartient à papa. Papa et Fifi sont-ils sur la photo aujourd'hui, la relation père-fille, par le truchement d'une image imaginaire, celle d'une photo que nous avons demandé, suggérée à un certain nombre de femmes d'imaginer la représentation de leur papa. Sont-elles sur la photo? Non. Qui? Dans quel décor? Quel âge a-t-il sur la photo? Etc. Ça raconte beaucoup plus de choses, peut-on penser, que des analyses d'analystes très malins. On sait très bien, en tout cas, qu'on va là, dans les sous le boisseau, on va derrière les fagots, et nous levons peut-être quelques voiles, mais vite retombées, sur le mystère infini qu'est la relation, toujours évidemment, de la filiation entre les parents et les enfants, par nature et aussi par culture, mais tout spécialement, alors aujourd'hui, entre le père et la fille, et la fille peut-être est le père, parce que ce sera encore beaucoup plus difficile de demander à des pères de parler de leur relation avec leur fille. Là, c'est les filles qui parlent.
Il ferait pas, je le vois pas travailler, il serait quelqu'un de tranquille dans sa maison, à la campagne, en train de profiter de la vie, quoi. Ce qu'il a pas eu l'occasion de faire, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'il est mort trop tôt, et j'ai l'impression qu'il en a pas du tout profité. Mais je crois que c'est vrai en même temps, c'est l'impression que j'ai, mais je suis que c'est vrai. C'est le genre de personne qui disait « je ferais ça à la retraite », quoi. Sauf qu'à la retraite, on n'y arrive pas forcément, et il n'y est pas arrivé. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne l'ai pas vu faire, que j'aurais aimé qu'il fasse, et que j'aurais aimé le voir faire. Je sais qu'il en avait envie, mais ça ne s'est pas fait en se disant « on verra plus tard ».
Et alors, qui y aurait sur cette photo également ?
Il n'y aurait pas ma mère. Je crois pas, ça n'a pas été l'amour idéal. Mais non, je crois que je le laisserai lui avec sa maison, qui est aussi la maison de mon enfance. Et mon frère, je mettrai avec.
Et je sais que vous l'avez perdu, vous étiez enceinte. Mmh. Vous ne mettriez pas votre fiche ?
Non, j'ai pas du tout envie d'associer la mort de mon père à la naissance de mon fils. Parce que la naissance de mon fils, c'est un événement... génial, et puis en même temps, j'ai dû, alors qu'il était dans mon ventre, perdre quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc j'ai pas du tout envie que lui, il sente à n'importe quel moment que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, alors que lui, il était en train de naître et que j'étais partagée entre la joie de porter un enfant et puis la mort de mon père. Donc j'ai pas du tout voulu l'associer à ça. Donc je le mettrai pas avec, certainement pas.
C'était quoi ses défauts ?
Il était absolument pas patient. Gueulard, satisfait. Je crois qu'il a commis aussi pas mal d'erreurs avec moi. J'étais sa fille, on a une relation très très proche quand j'étais toute petite. Ma mère l'a trompé à un moment donné, il le savait, et il me l'a dit quand j'étais petite, quand j'avais 6, 7, 8 ans, un truc comme ça. Et évidemment, amoureuse comme j'étais de mon père, j'ai haï ma mère à un point... fou, quoi. J'ai détesté ma mère jusqu'à l'âge de, je sais pas, 14 ans, quand mon père est parti pour travailler à l'étranger pendant un petit peu. Quand mes parents ont finalement divorcé, c'est ma mère qui est partie, on est resté avec mon père, et il perdait vraiment les pédales, et il m'appelait maman et tout ça. Moi, ça m'a fait vraiment flipper, je suis partie. Parce que j'avais peur, il s'embrouillait totalement, quoi. J'étais devenue la maman, il m'appelait par le prénom de ma mère et tout ça. Et je me suis dit que j'avais pas du tout envie de jouer le rôle de mère auprès de mon frère et de mon père qui allait pas bien. Donc j'étais un peu lâche sur ce coup-là, je suis partie. J'étais vraiment amoureuse. En plus, j'étais très fière de mon père. Mon père s'investissait pas mal à l'école, faisait des choses avec nous. Et je sais qu'il avait beaucoup de succès auprès de mes copines. Donc, raison de plus pour être assez fière de son père, quoi.
Il vous manque ?
Oui. Oui, vachement. Oui, ouais, vachement. D'autant plus quand on a des enfants, quoi. Il manque vachement.
Tu as à faire le portrait imaginaire de ton père, tu le représentes comment ?
Le diable.
Le diable, pourquoi le diable ?
Parce qu'il est méchant, je l'aime pas, je le déteste.
Et pourquoi tu dis qu'il est méchant ?
Parce que je l'aime pas.
Et pourquoi tu l'aimes pas ?
C'est parce que j'ai des problèmes avec lui et voilà.
Et qui c'est que tu mettrais sur cette photo d'autre ?
Ma belle-mère. Ta belle-mère. Ouais, ma belle-mère.
Et pourquoi ?
Parce que je les déteste tous les deux. Voilà la raison. C'est pour qu'il ait honte un peu de lui.
Ça doit être dur de pas aimer son père.
Je sais pas, vous savez, quand on n'a pas reçu l'amour de son père, on peut pas imaginer comment c'est un père et voilà quoi. Donc si on me demandait si t'aimes ton père, ça me fait ni chaud ni froid quoi.
Ça en fait de la cruauté, ça en fait de la souffrance, des petits mots comme ça. Lâché au coin d'un flipper à la sortie du bahut. Une crise, voilà, le moment où rien ne va plus entre Fifi et papa. C'est la rupture, c'est la grande douleur. Qui a l'appareil pour mesurer l'ampleur de ces blessures et qu'est-ce qu'on fera de ces blessures ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Il y a des rigolos, des marioles qui nous promettent que avec quelques années sur un divan, hop, on pourrait, comme on fait avec le linge, passer le fer à repasser et qu'il ne reste plus de plis. Eh bien, si les plis restent à jamais. Et c'est avec ces plis qu'il faut faire avec. Et c'est ces plis qui nous font. Nous sommes un ensemble de plis. Ouais. Je crois ça, je pense ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tous les cas, je ne sais pas si ça coïncide tout à fait avec les mots des femmes qui se sont confiées et qui, pour nous dire l'image qu'elles se font, la photo qu'elles se font de leur père.
Mon père était toujours habillé simple. C'est un ouvrier, il était cantonnier à la ville de Paris, mon père. Et puis, j'avoue encore avec sa casquette et son écusson de Paris. Moi, pour moi, je vois la maison où on a été élevé, à Romainville, on a été élevé. Oui. Et puis, une petite maison qui n'existe plus d'ailleurs.
Pourquoi ?
Parce qu'on l'a démontée pour faire des HLM. D'ailleurs, il n'a pas eu le temps de savoir puisqu'il est décédé avant, mais il en aurait eu un chagrin fou. Parce qu'il adorait sa petite maison, son petit jardin à l'époque. Oui.
Et alors, il était comment ce papa ?
Ce papa, on était assez calme, enfin calme et nerveux en même temps. Il adorait ma mère. Il avait ses petits défauts, mais enfin.
C'était quoi ses petits défauts ?
Comme on peut avoir quand on travaille comme ça, les gens qui ont l'habitude de dire viens boire un petit coup, petit Louis. C'était pas bon.
Oui.
C'était pas bon. Voilà.
Il vous manque, hein ?
Oh, mais je suis toujours en train de parler de mon père. Même qu'il y a quand même 30, ça doit faire 33, 33 ans qu'il est décédé. J'ai la photo sur le buffet et je parle souvent de papa. Papa, il faisait ci, papa, il faisait ça. Alors, ça ne s'oublie pas, de toute façon. Hein? Ça ne s'oublie pas. De toute façon, avec son défaut, il était très bon père. Et maman n'était pas malheureuse pour ça. Il a toujours ramené sa paye à la maison.
Mais, je sais pas, il sera avec moi. C'est comme, comme je le vois pas, ouais.
Et vous seriez comment, l'un à côté de l'autre?
Ah oui.
Vous tenant la main ou juste à côté, comment?
Ouais, c'est tenant la main, ouais.
Et qui aurait également sur cette photo?
C'est tout. Non, en fait, j'ai absolument aucune photo d'humain, quoi. J'ai que des chats et des chevaux et des... Ben, je la mettrai avec, dans mon album.
Au milieu des chats et des chevaux? Pourquoi vous n'avez pas de photos d'humains?
Parce que je suis dégoûtée des humains. Et je préfère les animaux.
Donc vous n'avez pas de photos de votre père?
Non.
Ni de votre mère?
Non.
Et il vous manque pas?
Je ne l'ai pas tellement connu, donc...
Et il serait comment sur cette photo? Beau?
Ah, il est beau, ça. C'est pas parce que c'est mon père, mais il est beau, ça, je le sais.
Il est comment?
Il est grand, brun. Une armoire.
Et maintenant, il fait quoi?
Je sais pas, je le vois pas.
Ah, carrément.
Mais elle est partie, j'avais 10 ans. Donc, je sais pas du tout ce qu'il devient. Ma sœur a des photos et de lui, il est beau. Hein.
Et pourquoi il est parti?
Elle est partie avec sa secrétaire.
Et personne n'a tenté de le joindre ou ça vous travaille
ma
pas, ça?
Il a essayé, il a dit qu'il voulait plus nous voir et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Je suis pas trop... Je suis de moins en moins sentimentale, quoi. C'est pour ça que je préfère les animaux. Au moins, ils sont vrais, ils sont pas pourris comme... Comme tous ceux que j'ai eus et que j'ai encore l'occasion de rencontrer. Voilà.
À 10 ans, vous n'y étiez pas comme ça?
Non, pas du tout. Non, puis j'adorais mon père, en plus. Vous m'auriez posé cette question il y a quoi, il y a 10 ans ou quoi, je me serais en larmes là. Là ça. Moi, j'y pense, là, j'y pensais en plus ce matin, c'est bizarre, j'y pensais ce matin parce que ça va être son anniversaire le mois prochain.
Ah, vous y pensez quand même?
Bah, j'y pense aux anniversaires, à la fête des pères surtout. Mais sinon, non, j'y pense pas spécialement.
Et vous pensez qu'il pense un peu à vous?
Je sais pas. C'est possible, hein, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on se met, qu'est-ce qu'on déguste dans ces existences qui sont parfois nos vies, qui sont de toute façon des vies et qui sont aujourd'hui et maintenant, c'est pas plus tard qu'on s'aimera, c'est aujourd'hui, dans ce lien-là, aujourd'hui, que nous tâchons de éclairer, ce serait bien ambitieux en tous les cas, de faire sans doute vibrer les... le lien entre un père et sa fille à travers l'idée qu'elle s'en fait, l'image qu'elle s'en fait.
Papa, papa, papa.
Il était ailleurs et je le vois toujours assis devant sa machine à coudre, en train de travailler. Mon père, c'était un petit bonhomme. Je dis un petit bonhomme parce qu'il était petit, petit. Il était brun, il avait les cheveux assez frisés, pas crépus, mais frisés. Et c'était un homme triste. Un homme triste parce qu'il avait perdu son épouse, ma mère. Et c'était pour lui un drame terrible. Je ne peux pas parler de mon père sans parler de mon frère, parce que mon frère, du fait de la mort de ma mère, mon grand frère, qui avait 11 ans de plus que moi, était à la fois pour moi mon père et ma mère.
Donc sur cette photo, vous mettez votre père, mais aussi votre frère?
Mon père et mon frère. En plus, ils ont été déportés ensemble. Et je les ai perdus ensemble. Et donc mon père et mon frère, pour moi, ça ne fait qu'un.
Et sur cette photo, vous vous mettez, vous?
Je ne sais pas où je me mets. je les ai attendus tellement longtemps que je me mets dans un petit coin en train de les attendre. Il faut que je vous raconte comment j'ai su qu'il avait été arrêté. J'étais cachée en nourrice dans un petit village de la Somme. Et il est arrivé un jour une lettre. Et sur la lettre, c'était pas l'écriture de mon frère. C'est mon frère qui écrivait habituellement. C'était pas la grande et belle écriture allongée de mon frère. Et j'ai tout de suite eu un pressentiment. Et la dame chez qui j'étais, que j'appelais Maman Alice, a pris la lettre, s'est assise à table, a mis ses lunettes. C'était tout un cérémonial pour lire une lettre. Et moi, je me suis mise derrière elle pour lire au-dessus de son épaule. Et sur la lettre, c'était tout en haut de la lettre, il y avait écrit en caractère d'imprimerie « Attention, ne lisez pas tout haut ». Et c'était une de mes tantes qui écrivait, qui disait que mon père et mon frère avaient été arrêtés et qu'il fallait pas me le dire, qu'il fallait me dire que mon frère s'était blessé à la main et qu'il pouvait pas m'écrire. Alors moi, j'ai lu ça, donc j'ai su tout de suite qu'ils avaient été arrêtés. Et je suis partie en courant dans les champs et j'ai couru à travers champs et puis... J'étais persuadée que je ne reverrais jamais à ce moment-là. Mais la vie est plus forte quand même. Avec cette certitude que je ne reverrais pas, il y avait toujours l'espoir que je les reverrais. Donc je les ai attendus, j'ai cru les rencontrer dans la rue, j'ai couru derrière des passants, j'ai fait plein de choses... Il y a plein de choses que je n'ai pas faites dans la vie en me disant ça je le fais parce que mon père sera content de moi. Ça faut pas que je le fasse, mon père ça lui plaira pas. Et toute ma vie, pendant des décennies, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, c'était toujours pour satisfaire mon père. Pour qu'il soit content de moi. Quand je faisais quelque chose de bien, je me disais, mon père sera content de moi.
Il serait fier de vous, ce papa?
Je crois. J'espère. Oui, je pense pas qu'il me ferait des reproches. Sauf de pas avoir fait de famille. Oui.
Vous êtes encore la petite fille qui veut rendre son père fier d'elle?
Oui, c'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui reste de lui, sa petite fille. Donc elle peut pas le trahir. Elle peut pas trahir son nom. Donc, oui. Aucune sépulture, aucune trace autre. Il faut d'une certaine manière, c'est une nécessité de le faire, de pas le laisser, de pas le tuer une deuxième fois, en fait. Enfin, il est toujours présent. Il est toujours présent.
Comme c'était une photo imaginaire, vous auriez pu l'imaginer au camp de concentration. Pour vous, c'était pas possible?
Oh ben ça, j'aime mieux pas. Hein. De toute manière, il a été gazé à son arrivée. Qu'est-ce que vous voulez que j'imagine? J'ai essayé de suivre sa trace. Je suis allée à Auschwitz. J'ai la certitude que dès l'arrivée, il a été gazé. Et ensuite, passé au four crématoire, qu'est-ce que vous voulez que j'imagine? Je ne peux rien imaginer. La seule chose que je puisse imaginer, c'est le désarroi de savoir qu'il me laissait seul. pour lui, ça a dû être quelque chose de terrible, de me laisser seule. Je peux rien imaginer d'autre.
C'était La photo du père, un reportage de Christelle Loigereau, une émission du 29 décembre 2004. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Aveline Carmois, à la réalisation Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistant Pierre-Yves Bulteau, au répondeur Solène Cordier. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, le 01 56 40 37 37.
Qui n'a pas un jour rêvé de lire France Culture ? Alors qu'attendez-vous ? France Culture Papier, la revue qui vous permet de retrouver chaque trimestre les grandes voix et les grands moments de France Culture, est disponible en librairie et en kiosque. C'est le troisième numéro, sorti le 6 septembre, disponible aussi sur abonnement. France Culture Papier, une coédition France Culture.
Bonjour, c'est Daniele Gatti. Je vous invite à notre Festival Beethoven avec l'Orchestre National de France, votre Orchestre National de France.
L'intégrale des symphonies en 5 concerts avec 5 créations inspirées à vivre du 1er au 15 novembre 2012 au Théâtre des Champs-Élysées.
J'espère que pour vous, Beethoven sera comme pour moi l'entrée au paradis.
Tous nos concerts au 01 56 40 15 16 et sur concert.radiofrance.fr.
Venez!
Juste après les infos, on parle musique avec Sylvie Chapelle. Bonne journée sur France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, un nouvel attentat cet après-midi à Damas. Une voiture piégée a explosé près du palais de justice. Un peu plus tôt dans la journée, toujours en Syrie, une explosion a eu lieu à la sortie de la mosquée, à la sortie de la prière du vendredi. Selon la télé d'État syrienne, 5 membres des forces de sécurité du régime ont été tués dans cet attentat. On l'apprend à l'instant, le Canada a décidé de fermer son ambassade en Iran et a décidé dans le même temps d'expulser tous ses diplomates iraniens. Une nouvelle mise en examen dans la tentaculaire affaire Bettencourt, on l'apprend aujourd'hui. L'avocat fiscaliste Fabrice Goguel a été mis en examen hier pour abus de faiblesse, escroquerie et abus de confiance, et ce à l'encontre de la milliardaire Liliane Bettencourt. Ça concerne l'île d'Aros qu'elle possédait aux Seychelles et le montage dont l'île a fait l'objet en 2006 via une fondation. Les statuts prévoyaient à l'époque, au cas où la fondation n'aurait plus été en mesure de remplir sa mission, et bien de faire des dons à certains bénéficiaires, dont l'ami de longue date de Liliane Bettencourt, François-Marie Bagnier, également mis en examen dans ce dossier. Le projet de loi de finances pour 2013 sera présenté le 28 septembre prochain au Conseil des ministres, un conseil qui, pour l'occasion, aura lieu un vendredi, en fait en raison d'un agenda bousculé par la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies qui doit avoir lieu le mercredi de la même semaine. Ce matin, lors d'un discours devant la Cour des comptes, François Hollande a prévenu, il a confirmé l'objectif de réduire les déficits pour les ramener à 3% du PIB. Ce sera l'effort le plus important depuis 30 ans, dit-il, et pour ce faire, il faudra réaliser 10 milliards d'économies d'euros en 2013. La réponse immédiate de Mitt Romney à Barack Obama sur les chiffres du chômage au mois d'août aux États-Unis, il montre l'échec de la politique d'Obama, selon le candidat républicain à la Maison-Blanche. Le taux de chômage est retombé à son chiffre d'avril à 8,1% de la population aux États-Unis, la population active, pardon. Mais dans le même temps, les embauches dans le pays ont fortement baissé, selon les chiffres officiels publiés aujourd'hui par le Département du Travail américain. En tout cas, la nouvelle de la baisse du nombre de chômeurs outre-Atlantique a été plutôt bien accueillie par Wall Street. New York a ouvert en légère hausse cet après-midi. Bruxelles réclame aujourd'hui 215 millions d'euros à 13 États de l'Union européenne pour trop perçus liés à la PAC, la politique agricole commune. Bruxelles dénonce des dépenses irrégulières et l'argent récupéré sera reversé au budget de l'Union. La France fait partie des pays visés par ce remboursement, mais à hauteur de 24 000 euros seulement. C'est le Portugal qui devra en rendre le plus avec 34 millions et demi d'euros. Par ailleurs, la Commission européenne devra, elle, rembourser de son côté plus de 110 millions d'euros à l'Espagne. Cela fait suite à un arrêt de la Cour européenne de justice qui a invalidé une décision concernant les aides au secteur de l'huile d'olive en Espagne. Enfin, chacun sa tribune pour vanter son programme pour le futur PS. Après Jean-Christophe Cambadélis, c'est au tour d'Harlem Désir de s'exprimer aujourd'hui dans le journal Le Monde. Candidat lui aussi à la succession de Martine Aubry, il pose 3 exigences au parti. Se mobiliser, faire de la pédagogie pour défendre l'action du gouvernement, proposer et innover en lien avec les Français et leurs attentes en cette période de crise. Enfin, rénover le parti, ses pratiques et l'ouvrir aux Français engagés sous l'impulsion de Martine Aubry. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Studio Théâtre.
Je me suis débattue.
Laure Adler.
J'ai essayé de crier.
Ce soir, dans Studio Théâtre...
Soyez plus précise.
Tabou.
Vous avez essayé de crier, vous ne pouviez donc pas crier.
Non, il me maintenait trop étroitement.
L'innommable, l'indicible, le tabou des tabous.
J'ai entendu le déclic, il a sorti un couteau à cran d'arrêt, j'ai vu la lame, il m'a dit tu la fermes ou je te bousille.
Studio Théâtre, ce soir sur France Inter, à partir de 23h.
On parle de quoi maintenant sur Inter? Eh bien, on parle musique avec vous, Sylvie Chapelle.
Bonjour, bonjour Laetitia, on se retrouve à 17h.
À 17h.
À tout à l'heure. Avec Sylvie Chapelle, on parle musique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Tous les vendredis, on parle musique avec un artiste ou une personnalité du monde culturel. L'occasion de connaître leur univers musical à travers ce qu'ils font, mais surtout ce qu'ils aiment. Des acteurs qui créent la musique ou qui la jouent, qui l'utilisent ou qui la portent. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous recevons le directeur de l'une des plus belles scènes françaises qui rayonnent à travers le monde, le Théâtre du Châtelet à Paris. Chers auditeurs, on parle musique avec Jean-Luc Choplin. Bonjour Jean-Luc Choplin.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Vous rentrez de vacances, ça se voit.
Ça se sent, hein, oui.
Paris n'est pas le centre du monde, mais le Théâtre du Châtelet est précisément au cœur de la capitale, juste en face du Théâtre de la Ville. Et exceptionnellement, il faudra patienter un peu avant de pouvoir jouir des spectacles que vous avez programmés cette année. Le Châtelet fera son avant-première le 24 octobre, puisque la maison est en travaux. Qu'est-ce que vous faites comme changement?
Alors, nous récupérons, grâce au maire de Paris, toute l'aile qui donnait sur la Seine, qui était un ancien hôtel qui avait brûlé. Oui. Et voilà, le maire a décidé de nous réaffecter ces locaux et de permettre ainsi d'avoir des salons, de pouvoir avoir des ateliers pour permettre à du jeune public de venir faire des ateliers, par exemple. Donc, le Châtelet s'agrandit, s'embellit. Nous créons un nouvel ascenseur aussi pour les personnes à mobilité réduite. On essaye, en quelque sorte, de développer ces théâtres, d'en faire un lieu de plus en plus accessible à tous.
Donc, ce n'est pas forcément pour les productions à proprement parler, mais c'est pour créer des choses périphériques.
Voilà, oui, c'est pour embellir, améliorer, agrandir et permettre d'avoir encore plus d'activités.
L'ouverture se fera donc avec West Side Story de Leonard Bernstein à partir du 26 octobre avec une avant-première le 24 et jusqu'au 1er janvier 2013. Ça fera plus de 80 représentations, ce qui est absolument énorme. On va y revenir. Jean-Luc Choplin, vous êtes le directeur du Théâtre du Châtelet depuis 2006. Vous faites partie des prescripteurs en termes de spectacle. On vous fait confiance, mais comme la plupart des acteurs décisifs dans le domaine, on ignore le rapport personnel que vous avez à la musique et vous avez accepté de nous le dévoiler, en tout cas dans la limite que vous êtes fixé. En ce moment, vous m'avez dit écoutez le groupe Blur avec Damon Albarn, que vous connaissez bien.
Oui, j'aime beaucoup Damon. On est devenus amis en montant une production au Théâtre du Châtelet.
Comment ça s'est fait en fait? C'est parce que vous avez écouté l'album que vous avez connu Damon Albarn ou c'est lui qui vous a fait écouter
sa
musique?
Non, je connaissais bien sûr le groupe qu'il avait fait qui s'appelait Gorillaz. Et J'étais très fan de ce groupe un peu multimédia, des projections, des dessins animés de Jimmy Hewlett. Et puis, je voulais adapter un vieux livre chinois, Le Voyage vers l'Ouest, le Journey to the West. Je voulais en faire un opéra rock, un opéra pop. Et Je cherchais un compositeur de musique pop qui soit capable de passer de 3 minutes à une partition de 1h30. Et Damon Albarn m'a apparu un des meilleurs candidats, un des meilleurs musiciens de sa génération. J'ai demandé à le rencontrer. Et puis, nous sommes partis en voyage ensemble en Chine. Et voilà, on a sillonné toute la Chine et on a décidé de faire un grand ouvrage ensemble.
Et vous pensez à lui en écoutant Park Life.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.